Niaprou, ça veut dire ça suffit en occitan. Niaprou, c'est aussi donc le projet, mais là c'est plus qu'un projet, c'est un spectacle qui va être itinérant dans le Grand Narbonnais. Et on va en parler avec Laurent Cavalier. Adicias Laurent.
Adicias Mounde.
Alors donc, Niaprou, ça suffit. Ça suffit de quoi ?
C'est ce qu'écrivaient les vignerons en colère dans les années 60 et 70 sur les murs des villes du Languedoc. Voilà, ça suffit. Ya basta, on a écrit dans tout le continent latino-américain contre les dictatures. Là, c'était un peu la dictature de l'argent. C'était la dictature des négociants, plus précisément. Les vignerons voulaient que l'État réglemente le pouvoir des négociants qui était énorme. Il y avait quelques négociants en vin qui avaient la capacité de mettre le département de l'Aude à genoux. Et voilà, et les gens se sont élevés contre cet état de fait.
Les luttes viticoles, les luttes vigneronnes, ça fait partie de l'histoire de l'Aude, de la région du Sud, j'allais dire même de l'Occitanie d'une certaine façon, historiquement, 1907, 1907 évidemment. On parle là évidemment donc de cette 1976, voilà. Alors, en tout cas ça a été l'apothéose, j'allais dire d'une certaine façon là.
Ouais, si l'on peut dire, tristement. La fusillade de Montredon, donc effectivement, en fait c'est 15 ans de lutte dont on parle nous. Hein. De 1961, la création des comités d'action viticole, à 1976, le jour où ils ont pris les armes, où ils ont sorti les fusils, et contre une compagnie de CRS, plusieurs blessés, deux morts, un dans chaque camp on va dire. Voilà, Joël Le Goff, un CRS breton, et Émile Puites, un vigneron des Corbières, du Val de Dagne. Voilà, et on parle de cette période-là qui a été une période en fait incroyable de corps social en marche, de révolte, de solidarité. Énorme, voilà, des milliers de gens soudés autour d'une idée. Et voilà, à partir de la fusillade de Montredon, les luttes des vignerons ont continué, elles ne se sont jamais vraiment arrêtées en fait, mais elles ont pris de tout autre tournant qui nous intéressait moins de raconter. C'était vraiment cette période-là, ces 15 ans de lutte. Et donc on est allé rencontrer ces anciens militants, ces anciens combattants, pour certains, se disaient-ils. Et ils nous ont raconté cette histoire qui nous a, nous, très, très touchés. Et puis on a décidé de la raconter à nouveau, c'est-à-dire de redonner leur parole.
Comment s'est fait déjà ce choix? On va parler évidemment de ce travail de recherche sur le terrain qui a été fait, évidemment. Mais comment s'est fait déjà ce choix? Pourquoi il y a eu cette volonté avec Marie Koum de parler de ce sujet et d'en faire un spectacle après?
Il y a plusieurs trucs. Je ne sais pas, par ordre d'importance.
Dans le désordre, c'est pas grave.
Ouais, peut-être. Non, mais en fait, peut-être par ordre d'importance. Le premier, c'est que il y a certains de ces gens qu'on connaît bien, qui sont des amis de famille en quelque sorte. Donc voilà, il y a un côté affectif comme ça, des gens qu'on aime bien, qu'on avait envie de faire parler. Et puis ça tombe à un moment où voilà une histoire, un pan entier de l'histoire ultra locale qu'on ne raconte plus. Ces gens sont vieux maintenant, eux n'en parlent pas. Elle n'a pas été très très racontée, parce qu'en fait nous on a compris quelque chose en rencontrant tous ces gens, c'est que il y a avec cette histoire de lutte, contrairement à d'autres luttes populaires où des gens en tirent une fierté, voire même font les fiers à bras avec ça, font ouais, nous on a fait ça, voilà. Ici, c'est pas du tout ça, il y a une grande modestie autour de cette histoire. Et en les écoutant parler, on a compris qu'en fait, il y avait une grande culpabilité finalement d'avoir fait comme s'ils avaient fait une connerie, quoi. Ils ont sorti les armes et il y a eu des morts. Et ça, c'était malgré eux. Mmh. Et c'est la colère, quoi. La colère qui a pris le pas sur la raison.
Est-ce que c'était presque tabou, j'ai envie de dire, de parler de ça 1907. Bon, même s'il n'y a plus forcément grand monde de 1907 maintenant, mais tout le monde connaît quand même relativement 1907. C'est vrai que 71, 76, ouais, on n'en parle pas. Donc est-ce que ça a été tabou, c'est le moment d'en parler?
Ça a été, en tout cas, je sais pas, tabou, le mot est peut-être fort, mais en tout, parce que quand même, il y a des choses. Tous les ans, en mars 60, tous les ans au mois de mars, il y a une commémoration de la fusillade de Montredon, à Montredon, sur les lieux de la fusillade, au pont de Montredon. Le monde viticole commémore cette histoire-là. Donc c'est tabou n'est pas le mot, mais pas transmise, quoi, parce que, voilà, ben, alors il y a un mélange de choses, hein. Il y a ce que je raconte là, le fait, la culpabilité un peu d'avoir pris les armes, mais aussi c'est un état de fait plus large concernant notre culture. Elle n'est jamais racontée quand même, notre histoire à nous d'ici, mais je veux dire, en fait, c'est de manière générale, l'histoire des gens n'est jamais racontée, c'est plutôt l'histoire de ceux qui dominent le monde qui est racontée depuis toujours, dans les livres d'histoire, dans les cours d'histoire. Il n'y a pas beaucoup d'historiens qui essaient de proposer une contre-histoire populaire de la vraie vie des gens, quoi.
L'histoire est écrite par les vainqueurs et par les grands vainqueurs et pas par les petites gens.
Ouais, j'ai envie de dire plus par les dominants que par les vainqueurs, parce qu'on parle des perdants aussi des guerres, mais on parle toujours du général machin, du roi machin et du président machin, quoi, ou de tel industriel, mais c'est les dominants.
Les dominants dans le camp des vainqueurs, on va dire.
C'est ça, les dominants gagnent ou perdent les guerres, et les petites gens meurent. Voilà, meurent et on n'en parle pas. Et voilà, et donc c'est une habitude qu'on a, un rapport à l'histoire qu'on a, qui n'est jamais dans ce sens-là. Du coup, nous, étant d'ici, vivant ici, on a eu envie de re-raconter un peu ça.
Alors justement, cette histoire local, comment s'est fait ce travail donc de recherche et de mise forcément en d'écriture pour en faire par la suite un spectacle. Comment ça s'est fait un petit peu ce travail?
Eh bien, on a commencé par rencontrer des gens, donc les anciens acteurs, en premier lieu André Cazes, qui a été le grand leader, on va dire, c'était un peu le chef des actions. C'était lui qui organisait les actions. Ensuite, on a passé beaucoup de temps avec Claude Marty, le chanteur, Lu Cantaire della Novo Canzuzitano, celui qui a pris sa guitare, un des tout premiers qui a pris sa guitare dans les années 60, qui, après avoir entendu John Baez et tout le Bob Dylan et tout le folk protest song américain, s'est dit, ben moi je vais faire pareil dans la langue de mon pays. Donc voilà, et ce gars qui était instituteur a compris que tout le pays était complètement lié d'amour avec la vigne, à la vie, à la mort avec la vigne, et donc il s'est engagé à fond dans ce combat, et il était lui-même de toutes les actions. Il a écrit quelques chansons dessus, donc on a passé pas mal de temps avec lui, il en parle très bien, lui. Jeannot Vialade, qui a été aussi un des grands meneurs, le Lion des Corbières, lui, on l'a pas rencontré pour écrire ce projet, parce qu'il est mort avant, mais moi je l'ai beaucoup rencontré. Il se trouve qu'à la fin de sa vie, dès qu'on jouait avec mon groupe de musique Dubartas, dès qu'on jouait, il était là, et donc on a beaucoup, beaucoup échangé. Et il nous avait beaucoup raconté tout ça, toute cette histoire. Voilà, et j'en passe. Là, je vous cite les noms que peut-être qui sont un peu restés dans les mémoires, peut-être, mais on a rencontré aussi plein d'autres gens. Et ensuite, on est allé rencontrer les gens d'une autre manière, c'est-à-dire dans les quelques écrits, les quelques petits documentaires qui existent. Voilà, c'est pas énorme, la somme de choses qui ont été produites sur ces 15 ans de lutte. Voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'y est collé, nous, à nouveau, parce qu'il y a, c'est pas énorme. Ensuite, il y a un travail qui nous a été fort, fort utile, et une rencontre dont on est très très content, c'est la rencontre avec Geneviève Abbé. Geneviève Abbé, c'est la seule historienne qui ait fait un travail d'historienne sur cette histoire-là. Son travail est très beau. Elle est dedans, elle est fille de vigneronne des Corbières, et du coup c'est dedans et dehors à la fois. C'est un master 2 d'histoire, elle a fait son mémoire là-dessus, donc dedans, impliquée complètement affectivement, et en même temps avec le recul scientifique de l'historien. Donc ça nous a été très 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 utile, quoi, très nourrissant, voilà. Et donc toutes ces rencontres.
Laurent, on va faire une courte pause musicale.
Ouais.
On va se retrouver juste après pour parler vraiment donc de ce spectacle. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir voir et où aussi. On se quitte provisoirement avec une chanson de La Mal Coiffée.
Voilà, Canti per Luz, un texte de Léon Corde, qui est un des poètes qu'on dit, qu'on chante dans le spectacle. Mais comme on n'avait rien enregistré en rapport direct avec ce spectacle, je vous propose d'écouter La Mal Coiffée qui chante Léon Corde. Ouais.
La Mal Coiffée, Sulpique.
À bal, al fundé, l'aigo, la lune, on s'est négado. À bal, al fundé, l'aigo, la lune, on s'est négado. Sur la ribo de riu, sumiabo, ino, filio, sur la ribo de riu, sumiabo, ino, filio, pausa. Chi sarà o beto, sun cutiu secret, pausa. Chi sarà o beto, sun cutiu secret, de sun cabiu surtis, ino, bago, dofi, de sun cabiu surtis, ino, bago, dofi. Ne, vieje, ne, 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 vieje, ne, 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 ne. A bal, al fundé, l'aigo, la lune, oh, et sabado. A bal, al fundé, l'aigo, la lune, oh, et sabado. Tania, que de la filio de moro, que es un besti. Tania, que de la filio de moro, que es un besti. Ne, 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 ne. Abal, al fundé, laigo, la luna, se es negado. Abal, al fundé, laigo, la luna, se es negado. Sula, ribo de riri, suña, boi, no, filho. Sula, ribo de riri, suña, boi, no, filho. Pausa, quizará un beto, su cutillo se cree. Pausa, quizará un beto, su cutillo se cree. Dice un cabio se cree, si no, bago, da.
Voilà, de retour après avoir écouté donc La Mal Coiffée, Canti per Luz, toujours avec donc Laurent Cavalier, pour parler donc du spectacle Nia Prou sur le territoire de la Narbonnaise. Laurent, donc on disait avant cette pause musicale, donc ce travail de recherche qui a été fait, donc ces rencontres, cette rencontre aussi avec l'historienne pour trouver les informations aussi donc sur ce sujet-là. Là, maintenant, dans les gens vont pouvoir le voir à partir donc du 15 janvier à Morellon-des-Corbières, c'est la première date. Qu'est-ce que c'est ce spectacle? Il dure donc 1h15. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir voir, entendre?
Eh bien, en fait, ils vont entendre les paroles de des acteurs, des militants, des guerriers du vin, comme disait Claude Marty. Nous, on les cite, on redonne leurs paroles. Et leurs paroles, on l'a tressée avec de la poésie que l'on dit, que l'on chante. Voilà, la poésie, c'est la poésie de Léon Corde, donc, qu'on vient d'entendre dans la bouche de la mal coiffée. C'est la poésie d'Yves Rouquette, de Claude Alranc, de Michel Descor, et, je cite de mémoire, et bien la mienne, et les chansons de Claude Marty. Voilà. Et donc, on a fait tout un... On s'est dit, on ne va pas faire le récit, on ne va pas raconter du début à la fin de manière chronologique. C'est plutôt une fresque qui on a décidé de mettre en vie, de croiser de manière parfois complètement anachronique les paroles des vignerons et de croiser ça avec la poésie qui est née sur cette même terre pour la plupart des poèmes qui sont nés au moment de cette lutte. Voilà. Et donc, on passe du français à l'occitan sans voir les frontières. Mmh. Et voilà, que dire de plus ? C'est un moment, voilà, de partage de cette histoire par la parole.
Comment ça se fait justement ce mélange déjà de France, tu disais voilà, il y a pas de frontières, donc voilà, tu passes d'une phrase à une autre, j'imagine, de français à l'occitan. Mais comment ça se mélange aussi, ces récits des acteurs, la musique, la poésie, comment ça se mélange? Est-ce que justement les paroles de ces acteurs sont mises sur la musique? Comment c'est fait?
Déjà, les deux langues se mélangent naturellement parce que, en fait, ces gens, dans les années 60-70, étaient absolument bilingues et parlaient entre eux en occitan et dès que la parole était publique, elle passait au français. Hein. Et donc, eux-mêmes portaient en eux cette richesse-là. Après, avec Jean Ovialade, moi, je n'ai pas échangé un mot en français, par exemple. Hein, on parlait en occitan. Avec Marty, on passait de l'une à l'autre. Voilà, donc tout ça, c'est dans le spectacle, voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu me demandais?
Comment justement tu mélanges la poésie, la musique, oui, voilà. Ces récits,
voilà. Ben ça se croise assez naturellement parce que encore une fois tout est né un peu dans un même mouvement, un peu à une même époque. Il y a un même niveau de conscience des choses un peu entre les paroles des gens et la poésie d'Yves Rouquette par exemple, de Claude Alranc, pour ce qui est de la forme, ça s'enchaîne, quoi, c'est-à-dire on envoie une série de paroles, de citations, quoi, et puis à un moment la musique démarre, et puis sur la musique il y a un texte que Marie va dire, soit qu'on va chanter à deux voix, soit qu'on va dire en français et chanter en occitan, ou l'inverse. Voilà, tout est j'aime bien l'idée de fresque, une fresque de paroles.
Je crois aussi que, alors j'allais dire, c'est pas que d'une certaine façon ce spectacle, c'est déjà beaucoup, mais il y a aussi la soirée, parce que c'est des soirées à chaque fois, vont aussi se poursuivre après le spectacle lui-même.
En fait, on s'est rendu compte, ça fait quelque temps qu'on le joue maintenant, ce spectacle, et on s'est rendu compte qu'en fait, on est très très content de ça. On redonne quand des anciens acteurs de cette histoire viennent assister. En fait, ils retrouvent de la fierté on s'est rendu compte que les gens relevaient un peu la tête, de se dire putain, t'as vu ce qu'on a fait quand même. Voilà une fierté qui est perdue, une fierté un peu perdue. Et du coup, les langues se délient, les gens se mettent à parler et ont envie de raconter encore. Et donc, on rencontre des nouvelles personnes qui ont encore plein d'histoires à nous raconter, parce que 15 ans de lutte, c'est un paquet de petites histoires, en fait. Des catastrophiques, des très, très drôles, des très émouvantes. Enfin, il y a plein de facettes.
Il y a des histoires dans l'histoire.
C'est ça. Beaucoup, beaucoup d'histoires. Et d'histoires de gens, quoi. Et donc, on a commencé à faire ce travail d'enregistrer un peu proprement ces gens, d'enregistrer ces paroles, d'enregistrer ce qu'il reste de la mémoire de ces événements aujourd'hui. Et on voudrait réaliser des petits documentaires radio, voilà, que certainement on vous proposera à votre antenne.
Avec grand plaisir.
On voudrait réaliser ça, ça sera des documentaires. Donc on a fait une longue interview de Geneviève Abbé, qui va nous servir, l'historienne dont je parlais tout à l'heure, qui va nous servir de fil conducteur. Et puis les paroles des anciens militants et la poésie et notre musique, qu'on va essayer de maintenir cette forme-là, cette rencontre entre la poésie, la musique et la parole historique des gens, et proposer des petites formes radiophoniques de 10 minutes peut-être. Je m'avance un peu encore en disant ça, mais voilà, c'est notre idée est autour de ça, quoi.
On pourra en discuter.
Avec plaisir.
Donc ce spectacle Niaplou, donc je le disais tout à l'heure, c'est à partir donc du 15 janvier, samedi 15 janvier à Morodon des Corbières. Il y a d'autres dates aussi donc qui sont prévues, parce que c'est un spectacle itinérant.
Donc c'est programmé, c'est le théâtre plus cinéma qui nous programme. On est bien content de ça, et qui nous propose de jouer dans les villages. Donc Morodon des Corbières le 15 janvier. Samedi à 19h, Salet-le-Daude au domaine des 7 écluses le dimanche 16 janvier à 17h, ensuite au foyer de Roquefort des Corbières le 22 janvier à 19h, ensuite au palais des congrès à Gruissant le 29 janvier à 19h, et ensuite on sort de la zone du théâtre, mais ils ont tenu à nous programmer là-bas au Apépieux dans le Minervois, qui a été un des foyers de l'histoire, donc au foyer municipal de Pépieux le 30 janvier à 17h. Voilà, c'est 5 représentations que le théâtre nous propose de faire en décentralisé dans les villages du Grand Narbonne.
Si on veut plus d'informations, évidemment on peut retrouver ça sur donc le site internet, le Facebook ou l'Instagram donc du Théâtre Cinéma Narbonne, ou également par téléphone 04 68 90 90 20. Laurent, si on veut nous continuer à se renseigner aussi sur ton travail, sur le travail de Marie aussi, que ça soit aussi avec la Malcoffée, comment est-ce qu'on fait peut-être pour...
Alors, vous pouvez aller sur notre site, le site de notre outil de production, c'est Sirventes, sirventes.com. Dessus, il y a tout notre travail et celui des collègues avec qui on partage tout ça en commun, l'outil de production, le label discographique. Donc sur le site, vous trouverez La Malcoiffée, vous trouverez Niaprou, vous trouverez le travail de conteur, vous trouverez Djebaleti et plein d'autres conteurs et musiciens. Voilà.
Laurent, donc Niaprou très bientôt, donc on a bien hâte de découvrir ça. Merci donc d'être venu dans nos studios pour en parler.
Et à mes grands plaisirs.
Et Adicias, à Coquemène.
Adicias, tout le monde.